Bonsoir. La rébellion du M23 doit cesser avec les hostilités, se retirer de toutes les positions qu'elle occupe et retourner dans ses positions de novembre 2021, comme le souligne le communiqué final du mini-sommet de Luanda. Propos du président de la RDC hier lundi, dans un discours prononcé par visioconférence lors de la cérémonie d'ouverture des travaux de la troisième phase du processus de Nairobi pour la paix dans l'est de la RDC. Félix Tshisekedi a précisé que c'est à ces conditions que le M23 va intégrer le processus de Nairobi pour la paix dans l'est de la RDC. Intervenant également par visioconférence, le président ougandais Yoweri Museveni a prévenu que les groupes armés congolais vont faire face à la force militaire de l'EAC s'ils n'écoutent pas les appels lancés lors des processus de Luanda et de Nairobi. De son côté, le président rwandais Paul Kagame a promis son soutien pour la réussite de ce troisième round du processus de Nairobi. Le président de la République du Burundi et président en exercice de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, Évariste Ndayishimiye, a pour sa part assuré le peuple congolais du soutien de cette communauté pour la restauration de la paix dans l'Est du pays, tout en précisant que les armées de la région resteront en RDC pour assurer la sécurité des Congolais jusqu'à ce que le gouvernement de la RDC se constitue une armée et une police qui seront protectrices de tout le monde. Quelle analyse faire des différents discours prononcés hier lundi lors de l'ouverture de la troisième phase du processus de Nairobi? Nous en parlons ce soir avec le professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique. Il est coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Professeur Bob Kabamba, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir aux auditeurs et auditrices de Radio Capi.
Professeur Arsène Mouaka, professeur à l'Université de Kinshasa et chercheur au Centre d'études politiques de cette université. Professeur Arsène Mouaka, bonsoir. Professeur Arsène Mouaka, bonsoir. Je crois qu'on l'a perdu. La réalisation va essayer de le rappeler. Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Il est aussi consultant indépendant des questions internationales. Frédéric Amani, bonsoir. Frédéric Amani, bonsoir. Décidément, les lignes téléphoniques posent problème. La réalisation va essayer de rappeler aussi Frédéric Amani. À Bounia, dans la province de l'Ituri, vous nous suivez sous la 104.9. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net ou encore sur Canal+, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La rébellion du M23 doit cesser avec les hostilités, se retirer de toutes les positions qu'elle occupe et retourner dans ses positions de novembre 2021, comme le souligne le communiqué final du mini-sommet de Luanda. Le président de la RDC a déclaré hier lundi que c'est à ces conditions que le M23 va intégrer le processus de Nairobi pour la paix dans l'est de la RDC. Félix-Antoine Tshisekedi s'exprimait par vidéoconférence lors de la cérémonie de lancement à Nairobi de la troisième phase de ses travaux. Plusieurs autres discours ont été prononcés lors de ces travaux par notamment les présidents burundais, ougandais et rwandais. Les condensés de tous ces discours avec vous, Grâce Hamzati.
Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a appelé tous les groupes armés à déposer les armes et intégrer les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Il a lancé cet appel ce lundi 28 novembre dans un discours prononcé par visioconférence lors de la cérémonie d'ouverture des travaux de la troisième phase du processus pour la paix dans l'est de la RDC. Selon lui, il est temps de s'engager pour le développement du pays. Ici et maintenant, nous devons définitivement taire les armes pour donner la chance à notre désir commun de reconstruire ensemble notre pays. Ces consultations ont pour objectif de développer une feuille de route pour formaliser la cessation définitive des hostilités et d'intégrer les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS. Il est temps pour chacun de nous de se détourner de nos actes odieux et de nous engager dans la voie du développement de notre pays qu'aucun individu ou groupe d'individus ne saurait taire ou étouffer, a déclaré Félix Tshisekedi. Le président de la République du Burundi et président en exercice de la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, Evariste Ndayishimiye, a de son côté appelé les Nations Unies à financer les opérations militaires de l'EAC dans l'Est de la RDC. Nous demandons aux Nations Unies d'apporter un soutien financier au processus de Nairobi relatif aux opérations militaires des forces de l'EAC, sans oublier d'appuyer logistiquement les dialogues intercongolais, a dit le président de l'EAC. Evariste Ndayishimiye a également appelé tous les groupes armés congolais à déposer les armes. Pour vous les parties concernées, c'est en mettant en application toutes les mesures prises dans les sommets des chefs d'État de Luanda et en privilégiant les consultations qui se suivent depuis Nairobi 1, Nairobi 2 et Nairobi 3 aujourd'hui, que vous aurez à réussir le pari d'arriver à une paix et stabilité durable pour vous tous, a-t-il martelé.
Professeur Bob Kebamba, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Hier lundi, c'était la cérémonie d'ouverture des travaux de la troisième phase du processus de Nairobi pour la paix dans l'Est de la RDC. Il y a eu plusieurs discours prononcés lors de cette cérémonie d'ouverture, notamment le discours du président Félix Tshisekedi, qui est resté ferme dans sa position tant que les M23 ne vont pas se retirer des positions qu'ils occupent actuellement et retourner dans ces positions de novembre 2021. Pas question d'engager des discussions avec eux. Comment vous analysez ces propos, ce discours du président Félix Tshisekedi?
Oui, bonsoir madame et bonsoir à mes interlocuteurs de ce soir. Et donc c'est que d'abord il faut bien se rendre compte que il faut d'abord commencer par un diagnostic avant d'arriver aux différents discours. Il faut d'abord se rendre compte de la perception que les pays de la région ont du Congo. Le Congo est perçu par les pays de la région, quand je parle des pays de la région, c'est-à-dire le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, tous les pays frontaliers, comme une espèce de grande étendue d'un État. Cette étendue de l'État qui a beaucoup de problèmes et qui est incapable de pouvoir résoudre ces problèmes. Et les problèmes, c'est quoi? C'est notamment la question de l'intégrité territoriale, la question de ses richesses, la question de la cohabitation pacifique, toute une série de d'enjeux et des problèmes qui se posent. Et donc la vision que ces pays ont, c'est que le Congo est incapable de résoudre ses propres problèmes par lui-même. Alors comme le Congo est incapable de résoudre par ses propres problèmes par lui-même, alors nous, on a eu ça déjà avec plusieurs autres pays, la SADC, l'Afrique centrale, etc. Maintenant c'est le tour de la communauté de l'Afrique de l'Est qui s'est dit qui va intervenir, donc aider le Congo à résoudre ses problèmes à la place du Congo. Alors, cette question veut dire résoudre les problèmes à la place du Congo, veut dire d'une part, il y a une dimension militaire. Par rapport à la dimension militaire, nous allons engager des troupes qui vont venir des pays de cette région pour pouvoir essayer de résoudre les problèmes liés aux questions sécuritaires, aux questions militaires. Et par ailleurs, il y a des questions politiques qui se posent. Alors, pour les questions politiques, on va essayer d'organiser un dialogue intercongolais. Et c'est assez étonnant qu'on l'appelle dialogue intercongolais, comme ça a été le cas à Sun City en 2002. Et ces deux dynamiques sont portées par la communauté, cette communauté de l'Afrique de l'Est, pour essayer de résoudre les problèmes du Congo à la place des Congolais. Et ça, c'est vraiment une espèce de mise sous tutelle de la dimension gestion des problèmes du Congo par les pays de la région. L'impression que ça donne, c'est les pays de la région qui dictent maintenant, entre guillemets, le timing, qui dictent le calendrier, qui dictent un peu tout ce qui doit être fait pour pouvoir résoudre ces différentes questions. Et l'objectif, quand ils disent dans les différents discours, d'une manière très claire, sans ambiguïté, le président de la communauté de l'État d'Afrique de l'Est, le président burundais, quand il dit clairement que c'est aux Congolais à pouvoir résoudre leurs problèmes, c'est tout à fait ça, en fait, le diagnostic. Ça veut dire, pour lui, pour les Burundais, le Congo n'est pas en mesure et donc il faut qu'on y aille. Alors, dans quel objectif? Il y a la dimension militaire, comme je l'ai expliqué, et la dimension civile. Dans la dimension civile, on demande à ces différents groupes qui seront à Nairobi, en sachant très bien encore qu'une dynamique régionale qui n'a pas d'emprise sur la dimension locale a du mal à pouvoir réussir et à pouvoir se concrétiser. Parce qu'entre Nairobi, par exemple, et Niamibwe, je prends l'exemple de Niamibwe, il y a un groupe armé qui est à Niamibwe, qui a envoyé son représentant à Nairobi, il n'y aura pas nécessairement de lien de communication pour savoir ce qui est en train de se passer à Nairobi, est-ce que ceux qui sont à Niamibwe vont l'accepter ou pas. Je parle autre chose, par exemple, des gens des Codeco. Est-ce que les gens des Codeco qui sont allés à Nairobi sont en lien avec ce qui sont sur le terrain? Ils vont véritablement suivre ce qui est en train de se passer à Nairobi. Il y a cette dimension-là. Et toutes les négociations au niveau politique sont en train de se focaliser vers la dimension civile, c'est-à-dire la démobilisation et la réinsertion. Vous devez savoir, madame, que depuis donc 1996-97, depuis l'arrivée de l'AFDL et de différentes rébellions, de différents groupes armés, il y a déjà eu plusieurs processus de démobilisation, réinsertion qui ont été mis en place. Ces différents processus se sont tous avérés par un échec pour la bonne et simple raison que l'État congolais à son niveau n'était pas en mesure de pouvoir véritablement mener une politique de réinsertion et d'intégration de ces différentes milices. Et en quoi maintenant le processus de Nairobi va changer les choses dans une dynamique où l'État congolais ne sera pas être en mesure de pouvoir prendre en charge toute cette dimension? L'autre aspect qui est aussi assez illustratif par le discours du président burundais, et lorsqu'il dit qu'il demande à la communauté internationale de pouvoir financer même le dialogue intercongolais, que l'on dit intercongolais de Nairobi, il demande que ce soit la communauté internationale qui finance cette conférence pour résoudre les problèmes. Et aussi, il demande non seulement pour financer la conférence de Nairobi, mais aussi financer les forces régionales. Et donc là aussi, on va se retrouver encore dans une dynamique sous lesquelles le Congo n'est pas en mesure même de payer, par exemple, les financements même de la conférence de Nairobi, et donc on arrive à ne pas assumer nos responsabilités, et lorsqu'on n'assume pas nos responsabilités, et on rentre presque dans une dynamique de mise sous tutelle, madame.
Professeur Bob Kabamba, ce processus, selon vos analyses, risque de ne pas donner les résultats que les Congolais attendent, c'est-à-dire le retour de la paix dans la partie orientale de la RDC.
Oui, ça je suis tout à fait catégorique là-dessus, que ça ne va pas ramener la paix dans cette partie de la région. Encore, il faut rajouter une autre dimension. C'est que lorsque l'on parle effectivement de ces régions, vous prenez la cartographie de ces différentes régions où il y a ces groupes armés, vous allez vous rendre compte qu'il y a une dynamique économique qui sous-tend ces groupes armés. La dimension économique, c'est quoi? C'est l'accès aux ressources. Que ce soit en Ituri, on a la question de l'or. Kadeko veulent occuper toute une série de carrés miniers pour pouvoir exploiter l'or et d'autres matériaux. Ils veulent contrôler le trafic, par exemple, de café, de cacao, des papayines vers les pays de la région. Vous prenez la région du Nord Kivu, vous allez arriver à avoir la même dynamique avec les ressources naturelles dans le Grand Nord et avec la question du café, encore une fois, café, thé, papayine, etc., parce qu'il n'y a pas que les ressources naturelles, aussi les ressources agricoles. Et vous redescendez dans la région, maintenant, la région Mbou qui est concernée par rapport au M23, vous avez la même dynamique. Vous allez dans le Sud Kivu, vous avez les mêmes dynamiques. Or, en maintenant, il y a cette dynamique économique. Et avec cette dynamique économique sur laquelle on ajoute encore les groupes armés, et encore on va rajouter les forces armées étrangères, on va arriver à avoir un imbroglio où l'enjeu ne sera plus la sécurité des Congolais et l'intégrité territoriale du Congo, ça sera plutôt l'accès et l'exploitation aux ressources humaines.
Puisque vous pensez, oui, professeur, que ce processus, oui, n'est pas la solution au problème d'insécurité, ne sera pas la solution au problème d'insécurité dans la partie est de la RDC, qu'est-ce qu'il faudrait faire finalement pour que ces groupes armés acceptent de déposer les armes? On l'a vu, malgré le communiqué du mini-sommet de Luanda, le M23 n'a pas déposé les armes. Ce groupe armé continue à se battre et à conquérir même certaines localités. Qu'est-ce qu'il faudrait finalement?
Oui, et puis, avant de répondre spécifiquement à votre question, il y a une dimension que le président burundais a dit, qui est hyper importante aussi, et qui dit que les troupes de la région resteront au Congo jusqu'à ce que le Congo puisse arriver à avoir une armée et une police en mesure de pouvoir assumer les responsabilités étatiques d'un État. Là, de manière très claire, c'est une façon pour les pays de la région de accentuer la dynamique que j'ai avancé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faudrait pour le faire? Toutes les dynamiques ont échoué pour la bonne et simple raison que du côté congolais, on n'a pas réussi à pouvoir mener la politique de désarmement et de désengagement de ces différents mouvements rebelles pour les réintégrer au niveau de la société civile. Ça, c'est une dimension qui est hyper importante. De mon point de vue, au lieu de concentrer sur toutes ces dimensions par rapport à chercher des financements clairs, c'est de pouvoir rationaliser correctement la gestion de la démobilisation pour être sûr que cette démobilisation va effectivement se faire dans une dynamique de paix et de sensibilisation de ça. Sans que cette dimension-là, on va avoir du mal. Une autre problématique, c'est que cette dimension liée d'abord au mouvement de la population a des répercussions sur le processus électoral tel que le calendrier a été publié, même si ce calendrier n'est pas tout à fait réaliste, et a été publié, et on se rend bien compte que dans ce qu'ils appellent les contraintes, ils mettent cette dynamique communautaire. Ça veut dire quoi? Dans toute une série de parties de la région, de la région, vous avez ce qu'on appelle un changement de démographie. Vous avez par exemple les Lendu qui habitaient tel territoire, mais qui n'habitent plus leur territoire, qui sont dans un autre territoire. Vous avez par exemple dans le cas du Nord Kivu, dans le cas où il y a eu les problèmes avec le M23, vous avez eu déplacement des populations. Les Houndé ont quitté leur territoire pour aller se réfugier ailleurs. Et là, il y a une modification de la démographie, et modification de la démographie a une répercussion aussi sur la dimension de l'enrôlement et des élections, sur lesquelles il y a une dimension politique qui va encore intervenir. Et donc, cette question liée véritablement à la démobilisation, c'est l'élément pour moi central qui doit s'accompagner aussi par la restructuration et la mise en place d'une véritable armée, et cette armée et la police pour pouvoir consolider véritablement les frontières, sécuriser les populations et aussi sécuriser les biens des personnes. À côté de ça, il faudrait qu'il y ait une justice, parce qu'il y a eu des exactions, il y a eu toute une série de meurtres, il y a eu des massacres, et ces massacres, pour l'instant, restent impunis. On ne peut pas continuer à parler des réconciliations, des mobilisations des différents groupes armés, alors que ces différents groupes armés ont commis des actes criminels, ont commis des crimes de guerre, ont commis des massacres, et que du jour au lendemain, on va pouvoir effacer et penser que l'on va les intégrer. Il y a cette dimension, toute cette dimension qui est à prendre en considération. Et c'est pour ça que, même en voyant que Nairobi a été mis dans un timing bien précis, on ne va pas résoudre à Nairobi toutes les questions que je viens de vous donner.
Professeur Arsène Mouaka, professeur à l'Université de Kinshasa et chercheur au Centre d'études politiques de cette université, votre lecture de ces différents discours prononcés hier lundi lors de l'ouverture de la troisième phase du processus de Nairobi.
Oui, c'est regrettable puisque... Je parle comme Congolais, mais aussi comme un intellectuel qui a la responsabilité de pouvoir parler objectivement, mais en même temps partager entre ses sentiments d'un intellectuel et celui d'un Congolais qui a quand même de la peine à voir que ce pays est l'objet de discours contradictoires selon les sensibilités. Tout cela, le problème généralement des interventions internationales, puisque les enjeux des États intervenants interviennent dans le conflit. C'est chaque pays qui a son regard sur nous, qui donne son discours en fonction de ses intérêts sur nous. Et là, c'est dommage, puisque quand on parle de l'East African, je crois que le discours le plus dominant, il est économique. Quand vous suivez des présidents comme le président kenyan, Ruto, et même bien avant Uhuru, quand vous suivez Museveni qui trace plus correctement le contenu économique de cette région, on se rend compte que ce qui mobilise beaucoup plus les États, c'est de voir que nous nous dressons comme un marché pour ces États. Chacun a ses intérêts et chacun veut avoir son prêt carré. Et par conséquent, on y va pour protéger les intérêts économiques plutôt que l'intérêt du Congo. Et l'intérêt du Congo ne pourra être défendu que par nous-mêmes Congolais, malheureusement dans notre expression la plus faible, puisque nous traversons le moment le plus faible aussi de notre histoire, où nous sommes incapables de nous défendre. Et donc c'est à cela que j'observe le processus de Nairobi comme un processus en plus. Autant qu'on en a eu bien avant beaucoup, je crois que celui-ci, c'est un énième processus, ce qui ne va pas nous amener la paix, comme le professeur Bob Kabamba venait de le dire, malheureusement pour nous. Et donc, il est question que nos dirigeants politiques prennent conscience et trouvent le lieu par lequel ils peuvent agir. Et le lieu par lequel ils peuvent agir, c'est au niveau de la gouvernance. Moi, je situe le problème au niveau politique. Il s'agit d'effacer le prétexte politique qui pousse le plus souvent les groupes armés à pouvoir ressusciter, à se multiplier, puisque autant aujourd'hui, le M23 et ceux qui sont derrière le M23, notamment les Rwandais qui sont derrière, vont susciter une multitude d'autres milices qui vont se légitimer à travers cette agression. Ça signifie, non seulement on aura à gérer le M23, mais nous allons gérer une multitude de milices tenant un discours ethno-politique ethno-nationalistes et qui prendront le prétexte de pouvoir défendre le pays. Et généralement, ça finit par le contraire de ce qu'il faut. Et la victime, c'est toujours la population. On a là déjà des milliers de déplacés et c'est des dossiers qu'il faut regretter. Mais je pense que nous sommes à face des processus à plus, comme je venais de le dire. Il faut prendre le taureau par les cornes. La première des choses, avant même d'organiser l'armée, c'est de s'occuper des problèmes politiques qui génèrent les contradictions qui se passent dans cette région. Tous les prétextes qui sont utilisés, je pense qu'on a raté 3 ans et demi de pouvoir nous y pencher, voire même 4 ans. On a raté le temps de s'y pencher pour pouvoir effacer et avoir le temps de préparer la paix. Puisque, dit-on que celui qui veut préparer la paix, il prépare la guerre. Malheureusement, pendant 4 ans, j'ai comme l'impression que c'est maintenant, à plein problème, que nous essayons de recruter, que nous essayons de commander les armes, alors que c'est des choses dans une gouvernance sécuritaire qui devait se faire bien avant et on ne serait pas si ridicule. Et donc, pour moi, je crois que le processus de Nairobi, c'est un processus en plus.
Processus de plus, professeur, ça veut dire que vous pensez, comme le prof Bob Kabamba, que ce processus de Nairobi n'apportera rien, ne résoudra
pas
le problème.
Il pourra même répondre. Oui, il pourra constituer un nouveau problème, puisque généralement, dans cette spirale de conflits, on constate que la solution devient le nouveau problème. À chaque fois qu'il y a une solution, parfois quand on prend l'élection comme le vote comme une solution, on organise des élections, on fait ceci, les élections deviennent un nouveau problème. On l'a vu avec Kunda, Mutebuzi et autres. Et donc, généralement, ce qu'on considère comme le ça devient un nouveau problème, parce qu'il y a des choses inacceptables que notre gouvernement va simplement refuser. Mais il sera contraint de signer face à la faiblesse militaire qui se dégage. Et ça pourra constituer une réserve qui pourra encore susciter une énième rébellion plus tard.
Alors, professeur Arsène Mouaka, on voit que les pays de l'Afrique de l'Est sont très impliqués dans ce processus de Nairobi. La RDC, vous l'avez dit tout à l'heure, ces pays-là considèrent un peu la RDC comme un marché, mais il faudrait bien qu'il y ait la paix dans la sous-région, en RDC particulièrement, pour que les échanges puissent se faire en toute sécurité. Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle on sent cette implication des pays membres de l'EAC?
Il y a certains pays qui ont besoin de ça, qui font une économie structurée, formelle, qui font des échanges les plus légaux avec le Congo. Mais il y a d'autres pays qui profitent justement de l'insécurité et qui sont dans une économie de guerre. Nous prendrons le cas du Rwanda. Le Rwanda profite insécurisé Rutshuru, insécurisé Masisi, tout l'Interland de la ville de Goma, de telle sorte que nous dépendons du Rwanda pour les choses les plus élémentaires, comme le papier hygiénique, comme l'eau à boire, comme le jus, comme les fruits, comme la pomme de terre, comme le haricot. Et généralement, quand on dit que notre pays est pillé, nous oublions que nous sommes pillés d'abord sur les choses les plus élémentaires. Quand on entre dans un hôtel à Goma, même les repas qu'on mange, à 80%, c'est des trucs qui viennent du Rwanda. Et ça arrange le Rwanda, nous est sécurisé dans l'Interland, nous laisser dans un centre urbain. Pendant très longtemps, nous avons constitué le marché pour le Rwanda. Et le Rwanda structure son économie en fonction de nous, ce qui signifie que notre pacification, c'est la mort économique du Rwanda. Et donc, il y a autant de possibilités que les États se donnent pour pouvoir structurer leur politique extérieure par rapport à nous. Malheureusement, nous-mêmes, nous ne structurons pas des politiques par rapport à ces États et ainsi de suite, et ça nous préoccupe peu. C'est cette paresse intellectuelle, cette paresse politique que nous payons. Et à chaque étape, nous payons cette paresse, puisque quand nous avons un semblant de paix, je pense que c'est le moment de pouvoir structurer les meilleures politiques. Et malheureusement, le plus souvent, on rate des occasions.
Frédéric Amani, est-ce que vous êtes en ligne?
Oui, bonjour madame.
Oui, bonsoir monsieur Amani, vous êtes chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi et aussi consultant indépendant des questions internationales. Le processus de Nairobi pourrait-il mettre fin à l'activisme des groupes armés en RDC?
Merci beaucoup pour la question. Bonsoir à vous et bonsoir au professeur Bob Kabamba et Arsène Mouaka, ainsi que tous les milliers des auditeurs des radios de la paix, Radio Kapi. Cette insécurité n'est pas seulement une affaire congolo-congolaise, mais c'est aussi une affaire régionale et, si vous voulez, aussi internationale. Et que tous les acteurs impliqués à cette insécurité ou à ce qui se passe à l'Est doivent apporter leur soutien pour la paix et la sécurité, non seulement à l'Est, mais dans la région. Comme vous le savez, madame, l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo affecte directement ou indirectement les autres pays de la sous-région de Grand Lac. Et donc, les États voisins à la RDC ont intérêt à manifester cette bonne volonté et les efforts pour la paix et la sécurité pour que le projet de développement puisse réussir de part et d'autre. Alors, j'ai lu dans le discours du président Kagame, par exemple, comme vous le savez, tout le monde peut dire, mais au-delà des déclarations ou des paroles, il faudrait que les paroles soient accompagnées par les actes. Lorsqu'il dit qu'il va participer ou contribuer pour que le pourparler de Nairobi puisse être une réussite, c'est une bonne chose, nous le félicitons. Mais au-delà de ces paroles, il faut que les actes que les acteurs, notamment le Rwanda, doit poser sur terrain ou à l'issue de ces pourparlers, concourt, n'est-ce pas, dans le sens d'apporter les soutiens dont la région a besoin ou dont la RDC a besoin pour la paix et la sécurité. Par rapport au président Museveni dans son discours, eh bien, je crois que je suis un peu inquiet en suivant le président Museveni lorsqu'il dit que les groupes armés ont intérêt à s'aligner sur la voie de la paix, c'est une bonne chose, mais en invoquant l'usage de la force par, passez-moi l'expression, par cette force régionale qui est en train d'être déployée, là on doit se poser beaucoup de questions. Peut-être ça pourra faire l'objet d'un autre numéro, mais la force régionale, je préfère le dire, la RDC doit être prudente et regardante là-dessus pour la force régionale qui est en train d'être déployée. Il n'y a pas longtemps, madame, sur votre média et ailleurs, on a décrié, on a voulu, et c'est ce qui est en train d'être fait, on veut le départ de la MONUSCO. D'un côté, on veut le départ de la MONUSCO, l'acquisant des passivités et de l'échec, et mais de l'autre côté, on accueille la force régionale qui, au dire du président Museveni, s'employera à la force si les groupes armés n'acceptaient pas de s'aligner derrière les recommandations de Nairobi. Là, on doit être prudent. Alors, par rapport au discours du président Ndayishimiye, qui est en même temps le président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est, bien, moi, j'analyse ces propos à des niveaux. Le premier niveau, je pense que le président Ndayishimiye manifeste les soutiens. Il fait son rôle en tant que président de cette organisation à laquelle la RDC appartient. Il montre le soutien que son organisation ou l'organisation va apporter au peuple congolais et à la RDC pour le maintien de la paix ou la restauration de la paix et de la sécurité. Mais le deuxième niveau auquel j'ai fait allusion, c'est que le président Ndayishimiye interpelle en quelque sorte, si vous voulez bien, ou il prodigue un conseil à la RDC. Dans la mesure, je crois, le professeur Bob Kabamba est revenu là-dessus, c'est que tant que la RDC n'aura pas ce qu'on peut qualifier d'une armée républicaine ou d'une police républicaine, eh bien, la force régionale continuera à assurer la sécurité. Et j'ai rejoint en disant que on veut en quelque sorte mettre la RDC sous tutelle. Or, la MONUSCO est venue et elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Il est vrai que la MONUSCO n'a pas peut-être apporté les résultats escomptés auxquels on s'attendait, mais pensez-vous que la force régionale va réussir là où la MONUSCO n'a pas réussi? On ne sait pas. Et enfin, pour terminer, le discours du président Félix Tshisekedi, c'est qu'il il rappelle aux uns et aux autres les responsabilités en tant que acteur dans le pourparler. D'abord, avec votre autorisation, je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire qu'il ne faudrait pas qu'on disperse les énergies. D'un côté, il y a le processus de Luanda, de l'autre côté, il y a le pourparler de Nairobi. Je suis d'accord pour toutes ces initiatives, mais pourquoi ne pas former un seul camp? Soit on réunit les efforts pour le sommet de Luanda ou pour le pourparler de Nairobi, pour ne pas disperser les énergies. Et ensuite, j'aurais bien voulu que le président João Lourenço, qui joue la médiation dans le cadre de la CIRGL, soit aussi invité, parce que on ne doit pas parler des langages, puisque tous ces sommets où tous ces conclaves militent pour la paix et la sécurité à l'est de la RDC, eh ben, moi je pense que une synergie des pourparlers ou des sommets devrait aussi se mettre en place.
Frédéric, on va vous redonner la parole tout à l'heure dans le deuxième tour des tables. On va prendre d'abord tous ces auditeurs qui sont nombreux à appeler sur notre standard, professeur Bob Kabamba. On va prendre pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis Bukavu.
Magdalene Jules, porte-parole du Forum des nationalistes depuis la ville de Bukavu. Je salue personnellement les discours du président congolais Félix Tshisekedi et celui du président burundais Evariste Ndayishimiye. Les deux discours qui semblent, selon moi, être réalistes dans les formes, même la forme. Quand le président burundais fait appel aux Congolais, je pense que c'est parce que la faiblesse, veux dire, de nos services de sécurité qui ne tiennent pas il y a plus de 10 décennies serait à la base de cet appel. Il serait mieux de rester avec ces forces régionales, car depuis que la force burundaise est dans le sud Kivu, il y a une accalmie par rapport à l'insécurité qui régnait dans les hauts plateaux, donc de Minembwe, avant l'arrivée de ces contingents burundais. Il serait aussi mieux de s'approprier cette force régionale et de se débarrasser seulement et uniquement avec tous les pays qui font l'hypocrisie de respecter les engagements de ces processus-là, donc de Nairobi.
Commentaire, professeur Bob Kabamba.
Merci pour la question venant de l'auditeur de Bukavu. Bon, effectivement, la force régionale, mais cette force régionale, maintenant, on ne sait pas dans quel mandat. Elle a cette force régionale. Elle a comme mandat, est-ce que de poursuivre tous les groupes armés? Est-ce que elle va rester comme jusqu'à la fin, en connaissant tous les problèmes de financement? Sera-t-elle plus efficace que la MONUSCO, comme on a dit tous mes collègues? La question aussi qui va se poser, est-ce que la pérennité de la dynamique qui semble être observée, même si ce n'est pas tout à fait correct l'observation de l'auditeur, puisqu'il y a des rapports des ONG locales qui font état quand même de plusieurs victimes, dont des populations civiles, dont on ne sait pas très bien, ces populations civiles, si elle est victime de quel groupe. On dit souvent non autrement identifié. Mais je reste quand même sceptique sur la capacité de la RDC à pouvoir surtout s'approprier cette force. On ne peut pas, comme le dit lui-même le président burundais, espérer que les solutions vont être résolues par les étrangers. Et alors, si les étrangers vont solutionner les problèmes du Congo, les problèmes des Congolais, ben dans ces cas, on n'a qu'à être de manière officielle sous tutelle et que ces forces restent et continuent à assumer les missions régaliennes, c'est-à-dire la protection et la protection des civils, des civils et de leurs biens. Plutôt, c'est toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, la dimension de la consolidation de l'État congolais avec les différentes missions régaliennes, que ce soit les Congolais qui assurent la sécurité, que ce soit les Congolais qui assurent la justice, et que ce soit les Congolais, justement, qui instaurent cet État de droit. Cette dynamique ne peut pas venir de l'étranger. Elle ne peut venir que du Congo elle-même. Or, cette dimension-là nous fait vraiment, vraiment, vraiment défaut, et qu'on a plus intérêt à y pouvoir y travailler tant qu'il est encore temps. Et imaginez-vous, madame, si ces forces doivent rester 3 ans, 4 ans, ça veut dire quoi à ce moment-là? Est-ce que nous ne sommes pas, on n'aura pas de logique? Là où il y a les forces régionales, il y aura une autre dynamique, un autre fonctionnement qui sera différent de celui qui est à Kinshasa ou bien de celui qui est à Lubumbashi, de celui qui est à Mbujimayi ou à Mbandaka. Celui qui est à l'Ituri va être dans une autre dynamique de fonctionnement qui ne sera pas le même, qui ne sera pas la même sur d'autres territoires. Et ça, ça risque de poser véritablement un problème de cohérence et surtout un problème de coordination et de consolidation de l'état de droit.
Professeur Arsène Mouaka, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Kachama Thomas, je vous appelle à partir de Kinshasa. S'il est louable que le président de la République tienne à exclure les M23 de ses pourparlers jusqu'à leur retrait sur les sols congolais, il n'est pas plutôt évident de compter sur leur bonne foi. Leur demander de se retirer en contrepartie de leur participation au dialogue n'est qu'une tentative d'accalmie et non plus une solution pérenne et donc à long terme face aux atrocités sur notre territoire. Faudrait-il rappeler ici que les revendications de ces rebelles sont diamétralement opposées à la vision du gouvernement de la République et de tous les peuples congolais par ricochet? Face à cette situation, une seule et unique solution est durable. C'est la dynamisation de notre armée. Ainsi, les propos du président burundais Evariste Ndayishimiye, même s'ils sont déshonorants pour notre pays, ils sont pourtant interpellatifs et nous mettent devant notre responsabilité. Il a raison de dire que la seule voie de sortie est l'investissement aussi bien dans les ressources humaines, matérielles que stratégiques pour assurer la paix à nos populations, car seule l'armée régalienne peut défendre avec conscience, détermination et patriotisme les territoires nationaux. Les restes, la communauté des États de l'Afrique de l'Est notamment, ne sont pas du tout dignes de confiance dans la mesure où plusieurs pays qui nous agressent sont dans cette organisation.
Professeur Arsène Mwaka.
Oui, autant je suis d'accord avec l'auditeur sur son scepticisme sur le processus qui exclut le M23, autant je ne suis pas d'accord puisque une des grosses erreurs que nous commettons dans la résolution de cette question, c'est de militariser même notre raisonnement. Et donc, le raisonnement, l'analyse militaire est l'alpha et l'oméga de toutes nos réflexions, de telle sorte que nous refusons de résoudre durablement le problème. Je suis d'avis, et je le répète, qu'il y a des problèmes qui sont d'ordre sociaux, qui sont d'ordre politique, qui sont parfois d'ordre économique, et des problèmes peut-être politiques, interétatiques, hein, qui méritent d'être résolus pour espérer couper sous les pieds de profiteurs, à couper sous leurs pieds tout ce qu'ils manipulent pour pouvoir nous attaquer plusieurs fois. Néanmoins, je suis tout à fait d'accord avec lui pour dire l'appel au retrait du M23, si ça devait porter des fruits, ça devait déjà porter des fruits, parce que je crois que depuis le début de l'insécurité et de leurs attaques, ils ont été appelés dans toutes les langues pour se retirer, et je crois que chaque jour qui passe, c'est à leur avantage que le jeu s'est fait. Ils élargissent leur espace. Et donc, plus nous traînons, plus ils avancent et plus ils consolident leur position et plus ils vont monter les enchères. Il est vrai que, logiquement, il faudrait que nous puissions trouver une force militaire capable de rééquilibrer les choses. Bon, malheureusement, c'est là notre faiblesse. Et je doute que la force régionale puisse être la solution à ce problème, puisque j'ai comme l'impression que chaque gouvernement prend les risques au minimum. Merci. Il n'y a pas un gouvernement qui est à mesure de nous remplacer.
Merci, professeur Hassan Mwaka. Frédéric Amani a aussi une réaction pour vous qui nous vient du Nord Kivu.
Ferdinand Kendamina, à partir de Goma, dans la province du Nord Kivu. Tous ces dirigeants sont attentistes et malheureusement les rebelles sont déjà habitués à ce genre de discours. C'est dit déjà entendu et l'on comprend facilement que les M23 sont les protégés du Rwanda, amis de l'Ouganda et du Kenya. Les Congolais devraient plutôt savoir qu'aucune solution ne sera trouvée tant que les groupes rebelles ne seront défaits militairement sur terrain. La logique voudrait que c'est celui qui est en position de force qui puisse imposer les règles du jeu. Mais dans les cas pratiques, je trouve insensé que les M23 qui gagnent considérablement les terrains puissent suivre les dictats du gouvernement congolais. Le contraire serait compréhensible. Nous ne sommes pas les plus malheureux du monde pour que tous les États puissent s'apitoyer sur notre sort. Soyons vraiment un État à part entière. Et cela passe par une grande réforme des services de sécurité, gage d'une paix durable.
Grande réforme des services de sécurité, gage d'une paix durable. Brièvement, Frédéric Amani, comment vous réagissez à ce commentaire?
Merci beaucoup, madame. Je salue la réaction de l'auditeur de Goma. Je l'avais dit que les réformes dans le secteur de la sécurité sont importantes pour amener à avoir une armée républicaine. Alors, c'est vrai, attentisme, oui, dans la mesure où, à un certain moment, que ce soit les États de la région ou le partenaire, attendent que quelque chose de malheur arrive pour qu'ils réagissent. Moi, je pense, voilà pourquoi, au regard de tout ce qui se passe sur terrain, il est plus que temps que la RDC et les États de la région membres de cette organisation s'inscrivent dans une prospection d'être en avant-garde avant que les M23 ou tout autre groupe puisse se réorganiser. Ça, c'est des 1. De 2, moi, je pense qu'il faut des recommandations qui s'imposent à tous les groupes et que et non cajoler ou essayer un peu de caresser les groupes rebelles. Et l'État doit davantage, que ce soit au niveau interne ou au niveau de la région, les États doivent être des États capacitaires qui, comme l'un des co-débatteurs l'a dit, doivent être revêtus de leurs missions régaliennes. Je crois que c'est à ces prix-là que le problème de l'Est, ou face au défi de l'insécurité causé par ces groupes rebelles qui pullulent à l'Est, seront, n'est-ce pas, résolus.
Avant de passer à la conclusion, rappelons le thème pour tous ceux qui viennent de se joindre à nous. La rébellion du M23 doit cesser avec les hostilités, se retirer de toutes les positions qu'elle occupe et retourner dans ses positions de novembre 2021, comme le souligne le communiqué final du mini-sommet de Luanda, propos du président de la RDC hier lundi dans un discours prononcé par visioconférence lors de la cérémonie d'ouverture des travaux de la troisième phase du processus de Nairobi pour la paix dans l'est de la RDC. Intervenant également par visioconférence, le président ougandais Yoweri Museveni a prévenu que les groupes armés congolais vont faire face à la force militaire de l'EAC s'ils n'écoutent pas les appels lancés lors des processus de Luanda et de Nairobi. De son côté, le président rwandais Paul Kagame a promis son soutien pour la réussite de ce troisième round du processus de Nairobi. Le président de la République du Burundi et président d'exercice de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est a pour sa part assuré le peuple congolais du soutien de cette communauté pour la restauration de la paix dans l'est du pays, tout en précisant que les armées de la région resteront en RDC pour assurer la sécurité des Congolais jusqu'à ce que le gouvernement congolais se constitue une armée et une police qui seront protectrices de tout le monde. Quelle analyse faire des différents discours prononcés lundi lors de l'ouverture de la troisième phase du processus de Nairobi? Professeur Bob Kiabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique, vous êtes coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. C'est quoi votre conclusion de ce soir?
Ma conclusion, c'est que le Congo n'est pas sorti de l'auberge et que la paix et la sécurité à l'est du Congo est encore loin d'être consolidée. Et non seulement elle est encore loin d'être consolidée, et que de plus en plus on se rend bien compte que le Congo se retrouve en train de montrer donc à la communauté internationale son incapacité à pouvoir résoudre toute une série des problèmes qui concernent donc la paix et la sécurité dans l'est du pays. Et ce qui met tous les pays et même la viabilité de cet État dans une dynamique, on va dire, d'État failli et d'État faible, ce qui est encore dommageable pour les populations civiles. Alors qu'il faudrait qu'il y ait un État fort, la construction d'un État fort, malheureusement, on s'en éloigne encore beaucoup plus. Merci.
Professeur Hassan Mouaka, professeur à l'Université de Kinshasa et chercheur au Centre d'études politiques de cette université, votre mot de la fin, comment vous entrevoyez la suite des événements?
Oui, je voudrais dire que le Congo ne se laissera pas berner par le bon discours de ses voisins. Je pense que c'est connu. Les voisins ont pour principe talking and fighting, c'est-à-dire parler et se battre en même temps. Ils sont habitués et c'est une tactique que nous connaissons. Malheureusement, ils réagissent de la même manière qu'il y a à peu près 20 à 30 ans et nous aussi, notre réaction est la même et on ne change pas. Ici, j'en appelle à tous ceux qui ont la responsabilité politique de gérer ce dossier pour dire, pour couper l'herbe au pied de ceux qui manipulent l'insécurité à l'Est, il faut résoudre leurs prétextes, les problèmes politiques, les problèmes sociaux, les problèmes économiques qu'ils posent. Et si le Congo peut s'étancher déjà à ces problèmes, le temps où peut-être cette force régionale est en train de faire quelque chose, je pense qu'on aura fait œuvre utile et on pourra doubler ça avec la réforme de l'armée et essayer de reconstituer notre armée pour nous défendre.
Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Vous êtes aussi consultant indépendant des questions internationales. Votre conclusion?
Merci. En conclusion, c'est qu'il est plus que temps que la RDC, pour faire face à ce qui se passe à l'Est, au reste, pour restaurer la paix et la sécurité, il faut qu'il y ait une réorganisation au niveau interne. Cela permettra à ce que l'État congolais devienne de plus en plus un État capacitaire en mettant en place des institutions fortes. Et au niveau interne ou externe encore, Je crois que la RDC, pour faire face à cette insécurité ou déstabilisation, et afin d'être maître de son destin, il est plus que temps que la RDC se dote de ce qu'on qualifie d'une diplomatie stratégique au regard de cette insécurité.
Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est fini. Merci à Guy Maté, Dona Madimba, qui m'ont aidé à préparer ce magazine. Le journal Mokondo était à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.